Vous êtes sur RTL.
7h46, merci beaucoup d'écouter RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Nicole Belloubet.
Bonjour Nicole Belloubet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes toujours ministre de la Justice ?
Ah oui. Oui, je suis toujours ministre de la Justice.
Une semaine déjà que Gérard Collomb a démissionné, on attend toujours le remaniement. Pas facile de trouver un ministre de l'Intérieur, c'est ça ?
Oh, je suis persuadée que dans quelques heures, nous en aurons un.
Donc vous êtes
d'ailleurs, nous en avons un aujourd'hui, le Premier ministre.
Oui, et un remplaçant de Gérard Collomb, effectivement, le Premier ministre assure l'intérim. Dans quelques heures, dites-vous, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez dire, par exemple, que le prochain gouvernement siégera demain autour de la table du Conseil des ministres ?
Je pense que je peux le dire, oui.
Vous pensez que vous pouvez le dire. Donc, nous serons avisés du prochain gouvernement dans la journée. C'est ce que vous voulez dire.
J'ai déjà eu l'occasion de dire que je ne savais pas exactement l'heure ni le lieu. Mais enfin, ça devrait être dans la journée.
Est-ce que, à vous, le président a proposé le portefeuille de l'intérieur ?
Ah non, pas du tout.
Pas du tout ?
Non, je peux vous le dire.
Vous avez reçu un coup de fil du président et du Premier ministre, d'ailleurs, concernant plus généralement...
Aurais-je reçu un, je ne vous le dirai pas. Mmh. Mais en tout cas, ce que je peux vous confirmer, c'est qu'on n'a pas proposé l'intérieur. Je suis très bien à la justice. Et si le président et le Premier ministre le souhaitent, j'aimerais bien y rester, d'ailleurs.
Non, et vous leur avez dit ?
Bien sûr,
je vous leur avez dit, s'ils vous avaient appelé, vous leur auriez dit que vous vouliez rester au gouvernement à la chancellerie. Je dis ça parce qu'il a été écrit que vous pourriez quitter le gouvernement. Vous l'avez envisagé ?
Moi, je laisse les journalistes libres de ce qu'ils écrivent. En tout cas, à titre personnel, je souhaite rester. Si le président et le Premier ministre le souhaitent, ce sera parfait.
Mais qui a intérêt à vous voir partir ?
Je ne sais pas. Et franchement, je ne passe pas beaucoup d'heures par jour à réfléchir à ces questions-là.
Vous ne vous dites pas parfois que la politique est cruelle ? Et que dans ces moments-là, on est quand même dans un certain inconfort moral et mental ?
D'abord, je n'ai aucun inconfort moral. Je fais ce que j'ai à faire. Mon travail est quelque chose pour moi d'essentiel. Je ne me pose pas de questions inutiles. Je pense qu'il y a beaucoup de choses beaucoup plus utiles à faire.
Vous serez toujours ministre, en tout cas de la Justice, au prochain Conseil des ministres. C'est ce que vous espérez. C'est ce que vous sous-entendez ce matin. Madame Belloubet, Redouane Faïd est en grève de la faim depuis hier dans sa prison de Vendeuil-le-Vieux. Est-ce que ça modifie son traitement carcéral en quoi que ce soit ?
Alors, Redouane Faïd est incarcéré à Vendin, qui est une prison très sécurisée.
Vendin-le-Vieil, restitué son intégrité à cette commune.
Il est à l'isolement. Ses déplacements s'effectuent dans des conditions de... Ses déplacements à l'intérieur de la prison s'effectuent dans des conditions de sécurité maximale, c'est-à-dire qu'il est, quand il se déplace, il est menotté, il est accompagné par plusieurs surveillants pénitentiaires.
C'est ce qu'il conteste d'être menotté en permanence ?
Non, il n'est pas menotté en permanence, il n'est pas menotté dans sa cellule. À chaque déplacement, il est menotté. Les questions de sécurité, en tout cas dans ce début de détention, l'exigent. Je trouve paradoxal que cette grève de la faim... viennent accompagner des revendications sur des questions qui concernent soit les personnes qui l'ont hébergé, soit celles qui l'auraient aidé à s'évader. Il me semble tout de même qu'il ne faut pas renverser les choses.
Il conteste l'incarcération de sa logeuse et des membres de sa famille. Pourquoi inverser les choses ? Lui estime sans doute que l'enquête a ratissé trop large.
Oui, mais enfin, écoutez, ce n'est pas à lui d'estimer que l'enquête ratisse ou ne ratisse pas tout de même. Il s'est évadé, il faut assumer les conséquences de cette évasion. Nous les avons assumées pour notre part, je l'ai dit à plusieurs reprises, puisque c'était un événement grave que cette évasion, nous avons pris les mesures. Ce n'est tout de même pas maintenant à M. Faïd de se plaindre de son sort. Cela étant dit, évidemment, les surveillants pénitentiaires sont très attentifs à la santé des détenus, en toute hypothèse.
Et au moment où on se parle, est-ce que des précautions ont été prises en termes d'alimentation, justement, du détenu ?
Elles le seront. Les détenus sont surveillés.
C'est-à-dire, ça passe par quoi ?
Bien, écoutez, s'il y a des appels au corps médical, ils seront faits. Il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là.
Il n'y a pas de parloir pour lui ?
Non, il n'y a pas de parloir pour le moment parce que le juge ne l'a pas autorisé.
Donc aucun parloir pour Redouane Faïd ?
Pour le moment.
Pourquoi ? Pour le moment, ça veut dire que ça peut être révisé très rapidement ?
C'est le juge qui l'autorise ou n'autorise pas.
Non, on rappelle que lors de son évasion de Réau, il était en plein parloir. On s'interroge, Madame Belloubet, parce qu'on est allé voir sur Google, la photo de la prison de Haut, de Vendeuil-le-Vieil, n'est toujours pas floutée. Regardez,
je vous crois, je le sais, puisque j'ai moi-même regardé. Nous avons écrit à Google, j'ai écrit pour vraiment demander qu'il y ait des mesures mesures qui soient prises pour retirer ces établissements pénitentiaires. Pour le moment, ça n'a pas été suivi d'effet.
Donc vous avez écrit personnellement à Google pour cette prison-là et pour d'autres ?
Pour Réau.
Parce que pour Réau, toujours pas non plus.
Non, toujours pas.
Voilà, comment vous...
Eh bien, écoutez, je ne sais pas.
Ça veut dire qu'on n'a aucun recours. Vous, la ministre de la Justice, qui avait fait face à une évasion spectaculaire il y a quelques mois, vous écrivez à Google et vous n'avez pas de réponse. Vous n'avez aucun pouvoir sur cette entreprise.
Je vais peut-être maintenant passer à des mesures autres, mais vous savez...
Qu'est-ce que ça pourrait être ?
Je ne sais pas, je vais demander à rencontrer les personnes qui sont en charge de ces questions-là. Je vais peut-être essayer de voir les personnes auxquelles j'ai écrit.
Vous les interpellez ce matin ?
Oui, bien sûr. Je trouve que ça n'est pas normal que des établissements sécurisés comme nos prisons se retrouvent sur Internet.
Nicole Belloubet, sur le nombre de places de prison, Emmanuel Macron, justement, on avait promis 15 000 nouvelles. Il en avait promis pendant sa campagne, on va dire maintenant ce qu'il en est. À la fin du quinquennat, il y en aura 7 000 livrées.
Absolument, 7 000 livrées et 8 000 lancées.
Lancées, ça veut dire
Lancées, ça veut dire, vous savez, pour construire une prison, il faut un terrain. Ce n'est pas toujours facile, parce qu'il faut évidemment que les élus soient d'accord, il faut négocier. Il faut parfois exproprier, tout dépend des lieux où nous souhaitons implanter. Donc il faut acquérir un terrain, il faut faire les études, il faut ensuite lancer les programmes.
On sait que ça prend plusieurs années.
Tout ça est long. Et donc nous garantissons 7000 places livrées et 8000 places commencées. Cela fait partie des engagements du président de la République et nous les tiendrons.
Commencer, ça veut dire que les chantiers seront déjà sortis de terre, comme on dit ?
Pour certains, oui, plus avancés que d'autres, ça dépend des
situations. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin si, par exemple, vous avez trouvé, déjà identifié tous les lieux d'implantation ?
Bien sûr, à 90%.
Pourquoi vous ne publiez pas la carte des lieux d'implantation des prochaines prisons ?
Nous allons le faire. Il n'y a rien de secret. J'ai quelques ajustements finaux, si je puis dire.
C'est-à-dire des maires récalcitrants. Voilà, c'est compliqué.
Mais bien sûr, c'est compliqué. Ouais. Et c'est tout à fait normal. Et si vous voulez, globalement, on nous propose des emplacements dans des endroits où nous n'avons pas nécessairement besoin d'emplacement pénitentiaire. Parce qu'une prison, ça ne se met pas forcément au milieu de nulle part. Une prison, ça ne se met pas loin d'un tribunal. Ça se met souvent dans les endroits où nous avons des besoins. Nous savons que nous aurons de la population pénale. Donc, si vous voulez, il faut une adéquation entre les besoins, en fonction des populations pénales que nous projetons, et les lieux qui nous sont proposés. Tout cela fait que j'ai encore quelques ajustements à faire.
Il reste quelques arbitrages. Donc voilà, c'est ce qu'on comprend sur 10% de la totalité.
Absolument.
Dans votre réforme, Nicole Belloubet, qui arrive aujourd'hui au Sénat, on entendait la bâtonnière hier sur RTL qui dénonçait la déjudiciarisation que vous mettriez en place. Je prends un exemple. Votre texte modifie la procédure de divorce en matière de pension alimentaire. Ce ne sera plus le juge qui révisera le montant des pensions, ce sera le directeur de la caisse d'allocation familiale.
Oui,
vous lui donnez le rôle d'un magistrat.
Cela. Non, absolument pas. Nous proposons cela pour quelles raisons ? D'abord parce que c'est le juge qui fixera les pensions alimentaires. C'est le juge qui fixera les pensions alimentaires. Nous disons simplement que le directeur de la CAF, la CAF gérant, c'est un organisme qui a des missions de service public, que ce directeur de la CAF pourra, à titre expérimental, pendant 3 ans...
C'est une expérience que vous avez...
C'est une expérience. Pourra fixer la révision des pensions alimentaires et, bien entendu, s'il y a une contestation, le recours sera fait devant le juge. Je termine.
Comment va-t-il évaluer le fait que les parents sont d'accord,
parce que
sur une révision demandée ? Mais s'il n'y a pas un parent qui abuse...
Madame Martichou, si vous m'écoutiez, je dis que s'il y a un recours de l'une ou l'autre des deux parties, ce recours sera traité par le juge, pas par le directeur de la CAF. En revanche, donner cette capacité à titre expérimental au directeur de la CAF permettra de raccourcir les délais énormément et permettra également d'harmoniser les solutions.
Vous avez révisé votre copie sur un point, en tout cas, qui suscitait beaucoup d'émotions, c'est la fusion des TGI, les tribunaux de grande instance avec les tribunaux d'instance. Et les juges d'instance, qu'on appelle les juges des pauvres, que connaissent bien les Français, parce que ce sont eux qui interviennent pour les questions de surendettement, de loyer impayé, etc. Une question simple, une réponse très courte, est-ce qu'ils vont conserver finalement leur statut de magistrat spécialisé ?
Absolument.
Nous
gardons tous les tribunaux là où ils se trouvent et d'autre part, nous gardons en proximité, parce que c'est le cœur de ma réforme, nous gardons un juge qui gérera le contentieux de la protection, c'est-à-dire les tutelles, le surendettement, les baux d'habitation, les crédits à la consommation, ce qui fait le quotidien de nos concitoyens. Ça nous semble important et nous le confions à un juge qui sera statutairement désigné comme tel.
Votre marathon parlementaire commence ce soir. Si vous êtes toujours
si
ministre,
toujours
si le gouvernement n'est pas, entre deux décisions. Absolument, on verra ça. Une question qui est posée ce matin sur RTL. Patrick Kanner, le sénateur, en parlait tout à l'heure avec Yves Calvi. Est-ce que vous jugez nécessaire la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les accusations de pédophilie dans l'Église de France?
Je dirais simplement deux choses. C'est un vrai scandale à la fois social et intime que ces questions-là. Ce n'est pas à moi de juger nécessaire une commission d'enquête, c'est au Parlement de l'apprécier. Et j'ai écrit quelque chose là-dessus dans le journal, dans un grand quotidien de l'après-midi. Faut évidemment veiller à ce qu'il n'y ait pas d'empiètement sur les procédures judiciaires qui sont en cours.
Donc vous êtes favorable à la condition qu'il n'y ait pas, évidemment,
absolument,
d'empiètement
mais
sur
l'enquête. Comme c'est toujours le cas, bien sûr.
Merci beaucoup Nicole Belloubet d'avoir été ce matin avec nous sur RTL.